Je vais avoir effectivement l'occasion de vous parler d'un thème qui est important, qui est grave. C'est celui de la santé chez les témoins de Jéhovah à travers plusieurs aspects. D'abord la transfusion, ensuite la vaccination, les greffes, et puis la sexualité. J'aurais aimé également aborder les problèmes mentaux, tous les soucis qui arrivent une fois qu'on quitte le mouvement, mais j'aurais pris la journée, puisque ne serait-ce que sur la sexualité, aujourd'hui on a de plus en plus de cas, on va le voir, de pédophilie à travers le monde. Il y a de plus en plus de procès qui sont en cours, et donc là encore c'est un sujet que j'aurais pu aborder pendant très longtemps. Comme Didier le disait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Histoire insolite et secrète des témoins de Jéhovah ». J'en ai un autre qui sort à la fin d'année qui s'appelle « Le témoin de Jéhovah et pédophilie », qui porte bien son nom. Et c'est un sujet que j'aurais aimé ne jamais aborder, puisque pour l'historique, je suis né, entre guillemets, chez les témoins de Jéhovah. J'avais un an quand mes parents sont devenus témoins de Jéhovah. J'y ai passé 25 ans. Et je me suis marié en février 2001 et en juin 2001, on n'y était plus. Donc ça fait un peu un choc pour tout le monde. Et depuis, bien évidemment, quand on quitte les témoins de Jéhovah, on perd tous ceux que l'on connaît, famille, etc. Voilà, je vois des têtes qui font oui. Beaucoup d'entre vous connaissent le phénomène parce que vous y avez été ou parce que tout simplement vous êtes dans la lutte contre les sectes. Et donc, depuis, eh bien, j'ai décidé de compiler l'ensemble des éléments qui m'auraient été utiles pour en sortir. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce premier livre. Voilà. Ça, c'était pour me présenter. Donc, je vais pouvoir maintenant vous parler de ce problème à travers trois points. D'abord, la transfusion sanguine. On va voir l'historique. La justification biblique, alors rassurez-vous, je ne vais pas faire de la théologie, etc. Je vais juste vous citer le verset de base pour expliquer l'ensemble de cette théorie qu'ils appliquent au quotidien. On va parler des morts, parce qu'il y en a en permanence, des études scientifiques et des associations en place, cette fois-ci mises en place par les témoins de Jéhovah. Deuxième aspect, nous parlerons des vaccinations, des greffes, avec là encore l'historique et la justification biblique. D'ailleurs, si vous trouvez une justification biblique au travers des deux versets que je vais vous donner, n'hésitez pas à me la donner, parce que je ne l'ai toujours pas comprise, et je ne la comprenais pas dans le mouvement. Et puis ensuite, on parlera de sexualité. Alors, en cadre du mariage, ça va être très rapide, dans le mariage, dans l'homosexualité, que pense-t-il de l'homosexualité, et puis de la biologie, qui sera le thème peut-être le plus long, après celui que l'on aborde tout de suite, donc de la transfusion sanguine. Alors on va faire un bref historique, parce que c'est utile de comprendre en fait comment fonctionnent les témoins de Jéhovah. Le mouvement des témoins de Jéhovah se fait par des éclairages, des nouvelles pensées. Et donc en permanence, dans l'historique, vous trouvez une fois on vous dit on peut accepter, une fois on vous dit on ne peut pas, etc. D'accord ? Donc brièvement, en 1924, il nous est parlé de l'utilité de la transfusion sanguine dans un périodique, journal La Tour de Garde, qui est leur principal organe de presse, on va dire. Et ce journal présente une femme qui donne du sang à son enfant. Et là, il est expliqué que c'est un acte de bravoure, que c'est une belle chose. Rien d'autre. Rien d'autre jusqu'en 1945, avec la toute première interdiction. Cette interdiction, on la trouve là encore dans le journal La Tour de Garde, le 15 juillet 1945, il est indiqué que la transfusion est interdite car c'est un acte païen et déshonorant Dieu. Toutefois, 4 mois plus tôt, il y avait le livre Consolation qui disait « Dieu n'a jamais publié de décret qui interdise l'emploi de transfusion sanguine. Servir Jéhovah d'un plein esprit ne signifie pas mettre son intelligence à l'index. » Principalement lorsqu'il y a de la vie d'une personne humaine, cette vie étant d'une grande valeur pour Jéhovah. Bon, 4 mois plus tard, on met son intelligence à l'index. 1961, on a la première peine qui est indiquée, c'est l'exclusion. Alors l'exclusion, qu'est-ce que c'est? Je l'ai rapidement dit. L'exclusion, c'est très simple. On indique à l'ensemble de la congrégation, donc du lieu de culte, et bien que la personne présentée qui est présente, et bien on ne pourra plus lui dire bonjour, même lui dire bonjour. Si c'est votre enfant, si c'est votre parent, il est hors de question de lui parler, c'est strictement interdit. Donc à partir de 1961, passible d'exclusion. Dans le petit magazine Le sang, la médecine et la loi de Dieu, il est indiqué que l'exclusion s'applique à la fois pour soi-même et pour ses enfants. C'est-à-dire que si vous avez un enfant de 3 ans qui est malade, qui a absolument besoin d'une transfusion de sang, si vous acceptez la transfusion de sang pour lui, vous êtes exclu. En 1963 et 1964, on va inventer des exceptions, tout genre, mais vraiment tout genre. Par exemple, il est demandé aux témoins de Jéhovah de contacter les fabricants d'aliments et de médicaments pour voir si la lécithine qu'ils utilisent est utilisée et en fait du sang ou du soja. S'il s'agit de plasma, ils ne peuvent les consommer, même si, dans le cas des médicaments, ceux-ci peuvent s'avérer indispensables. Donc à partir de 1945, on a des témoins de Jéhovah qui décèdent parce qu'ils refusent la transfusion de sang, et ensuite on en a qui décèdent parce qu'ils refusent les médicaments dans lesquels, simplement, il y a un peu de lécithine qui serait issue du sang. En 1964, c'est l'interdiction de transfusion pour les animaux de compagnie. Je vous donne tout de suite le verset de la Bible. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, bon, de ne pas mettre sur vous d'autres interdictions que celle-ci, vous abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles et du sang et de ce qui est étouffé et de la fornication. Les animaux de compagnie, je ne sais pas. La même année, il est demandé aux fermiers de s'assurer que les fertilisants qu'ils utilisent ne contiendraient pas de sang. Les femmes doivent vérifier de leur côté que les cosmétiques qu'elles utilisent n'ont pas de sang de vache. Peut-être qu'à l'époque ça se faisait, je ne sais pas. 1974, l'interdiction, ce n'est pas seulement la transfusion de sang, mais également le sérum, puisqu'on le sait, le sérum, on utilise le sang pour trouver le moyen de guérir la maladie en urgence. À partir de cette année, le sérum est en fait interdit, ou plutôt, il est indiqué dans la publication, dans leur magazine, que c'est à la libre conscience de chacun. Sauf que les versets bibliques nous expliquent que de toute façon, il y a une question de l'accepter. Mais c'est quand même à votre libre conscience. Et puis, en 1964, peut-être le plus grave, le secret médical n'existe plus. Et cela s'applique toujours aujourd'hui. Si un témoin de Jéhovah est infirmier ou médecin, que l'un de ses patients témoins de Jéhovah reçoit une transfusion, le médecin ou l'infirmier se doit de se rendre auprès des dirigeants de la congrégation pour leur indiquer « celui-là reçoit du sang, il faut l'exclure ». Il n'y a plus de secret médical chez les témoins de Jéhovah. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans ce cas, attention. Fais attention à ce que je dis. Ils font beaucoup de progrès. Ensuite, 1982, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir toutes les exceptions que l'on retrouve aujourd'hui. Alors, la première exception, c'est le fait que la transfusion de sang totale est interdite, mais que l'albumine, qui est une partie du sang, est maintenant acceptée. Par contre, vous vous souvenez peut-être un peu du verset biblique d'avant, l'utilisation de sangsues dans le cadre d'une procédure médicale est interdite. Encore, je ne sais pas, et il n'y a pas d'autre explication. De toute façon, il faut accepter les choses telles qu'elles sont indiquées dans les publications, sinon c'est exclu. En 1989-1990, on est sur un oui, mais non. Et puis oui, mais non, encore par la suite, jusque dans les années 2000. Alors, la transfusion autologue, c'est le fait d'avoir le sang qui quitte son corps, qui peut être nettoyé, réinjecté quasi immédiatement. La transfusion autologue est autorisée à partir du 1er mars 1989 dans leur publication. En 1990, la transfusion autologue est interdite. En 1997, dans le journal Les Témoins de Jéhovah, la vie Le Sang, il nous est apporté plein de nuances. D'abord, il est marqué qu'il faut s'abstenir du sang total. Ça ne change pas. Il faut s'abstenir aussi des concentrés plaquettaires, des concentrés leucocytaires et du plasma. Et on a le libre choix pour chaque fidèle concernant l'albumine, les immunoglobulines, l'antithrombine et les facteurs de coagulation. On va revenir après un petit peu sur quelques expressions, sans rentrer dans les détails, on ne va pas faire comme tout à l'heure. Ouais. Également acceptable cette année-là, la transfusion de l'homme. On y retourne. Le 3 juillet 1997, le Consistoire national des témoins de Jéhovah, donc pour la France, donne la position officielle de la secte. Jean-Marie Bocquerel, le président, dit « Ceux qui respectent la vie et voient en elle un don du Créateur n'essaient pas de la prolonger en absorbant du sang. » Bref, c'est parce que j'aime la vie que je veux mourir, c'est un peu ça l'idée. Et il y a une nouvelle affirmation cette année-là de toute transfusion sanguine autologue. Donc oui, mais non, à nouveau. Et depuis, eh bien, la transfusion de sang complet est toujours interdite, mais les procédures de sang autologue sont autorisées. On y retourne. Alors, qu'est-ce que c'est le sang? Les témoins de Jéhovah n'ont strictement pas le droit d'avoir une transfusion de sang complet. Ils n'ont absolument pas le droit d'avoir du plasma. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans le plasma? Alors, le plasma, c'est 55% du sang. Dans le plasma, on trouve 91,5% d'eau. A priori, ils vont avoir quoi prendre de l'eau. A priori. 7% de protéines. Qu'est-ce qu'on a dans les protéines? On a, entre autres, des albumines, c'est autorisé. Des globulines, c'est autorisé. Des fibrinogènes, c'est autorisé. Le reste du plasma, c'est du gaz, des vitamines, des déchets. D'accord? Donc, en fait, sur le plasma qui fait 55% du sang, ils ont le droit de recevoir par fraction 98,5% du plasma. Le sang, c'est 40% de globules rouges. Qu'est-ce que c'est les globules rouges? Alors, les globules rouges, évidemment, sont interdits. Les globules rouges, c'est 35% d'hémoglobine, ça c'est autorisé, 2% d'hémine, ça c'est autorisé, et 63% d'autres substances. Donc, sur les globules rouges qui sont interdites, eh bien, là encore, on a 37% qui sont acceptés à partir du moment où c'est bien différencié de tout le reste. Le sang, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3% de globules blancs, c'est interdit, sauf que bien sûr, l'interféron, lui, est accepté, c'est une partie des globules blancs. Bref. Au final, on se retrouve en permanence depuis 1945 avec des personnes qui refusent le sang, depuis les années 2000 avec des gens qui meurent, parce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir une transfusion sanguine. D'accord? Sauf que, pris individuellement, ils ont le droit de prendre 70% des composants du sang. Cherchez la logique. C'est pas fini. C'est pas fini. La tour de garde de juin 1990. L'idée. Chez la femme enceinte, un mécanisme actif assure le transfert d'une certaine quantité d'immunoglobuline provenant du sang de la mère dans le sang du fœtus. Ce transfert d'anticorps s'opère au cours de toutes les grossesses. Les nouveau-nés sont naturellement plus ou moins immunisés contre certaines infections. Un chrétien peut prendre en considération, oui, il s'appelle Corétien entre eux, peut prendre en considération le fait que les fractions protéiniques du plasma passent naturellement du système vasculaire d'un individu à celui d'un autre fœtus lorsqu'il doit décider s'il va accepter ou non des injections d'immunoglobuline, d'albumine ou d'autres fractions plasmatiques. Certains se diront peut-être qu'ils peuvent les accepter en toute bonne conscience. D'autres penseront qu'ils ne le peuvent pas. C'est à chacun de trancher personnellement cette question devant Dieu. Donc, on voit que, étant donné que l'immunoglobuline, l'albumine et d'autres fractions plasmatiques passent du corps de la femme à l'enfant, on peut les accepter. On est d'accord? Bien. Les globules blancs sont interdits. Je cite le docteur Jack Newman qui dit: même 6 mois après la naissance du bébé, le lait maternel contiendra en moyenne 100 000 globules blancs par millilitre, soit 10 fois plus que dans votre sang. Donc l'enfant reçoit par le lait maternel 10 fois plus de globules blancs que par le sang. On est d'accord? Alors, bon sang, pourquoi n'acceptez-vous pas les globules blancs? Alors, d'où tient cette théorie? Que dit la Bible? L'Esprit Saint est nous-mêmes en effet. Alors, c'est la traduction du Monde Nouveau. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un livre qui s'appelle Comment raisonner à partir des Écritures. C'est un de leurs ouvrages, la version 1989. Et je vais vous dire ce qui est écrit. Alors, sans, je ne vais pas donner la définition, a priori tout le monde la connaît. Ensuite, il est dit, en tant que source de la vie, Jéhovah a énoncé des instructions précises sur l'usage que l'on peut faire de ce précieux liquide. Très bien. Les chrétiens ont reçu l'ordre de s'abstenir du sang. Acte chapitre 15, versets 28 et 29 dit, alors là je rajoute des choses parce que c'est rajouté dans leur livre, l'Esprit Saint et nous-mêmes, le collège central de la congrégation chrétienne, en effet, avons jugé bon de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé ou mort sans avoir été saigné, et de la fornication. Si vous vous portez bien avec soin de ces choses, vous prospérerez, portez-vous bien, c'est la fin du verset biblique que j'avais pas mis. Ensuite, il est marqué, l'absorption de sang est mise ici au même rang que l'idolâtrie et la fornication, pratique dont nous désirons assurément nous garder. D'accord. Alors, l'absorption de sang est mise ici au même rang que l'idolâtrie et la fornication. C'est quoi l'idolâtrie? Parce que là, dans le verset, s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles et du sang, fornication y viendra après. Mais s'ils s'abstiennent du sang, ils s'abstiennent évidemment de l'idolâtrie. On est d'accord. Alors, j'ai pas pris le livre avec moi, mais si c'est très beau, je viens du là, c'est moi qui ai mis le bon temps. Le livre étude perspicace des Écritures, page 1163, je crois, jusqu'à la page 1167, nous parle de l'idolâtrie. C'est marqué. Le point de vue sur l'idolâtrie. Les serviteurs fidèles de Jéhovah ont toujours eu des idoles en aversion. Les Écritures désignent souvent les faux dieux et les idoles, par des termes méprisants, ils sont sans valeur, horribles, honteux, détestables, immondes. Et je l'ai dit, parfois, l'acte d'idolâtrie consistait à dresser une table et à y disposer de la nourriture et de la boisson pour les faux dieux, à leur offrir des libations, des gâteaux sacrificiels et de la fumée sacrificielle, et à pleurer à l'occasion de certaines cérémonies religieuses, etc. Bien, l'idolâtrie, c'est donc le fait d'adorer les faux dieux. Ou de faire des sacrifices rituels, des abattages rituels, par exemple, à des faux dieux. Bon, c'est pas un faux dieu. Réveillez-vous de février 2006 dit « Les Écritures contiennent des mises en garde rigoureuses contre le fait de vouer un culte à tout autre dieu que Jéhovah. » Bon. Donc les faux dieux, a priori, c'est eux. La tour de garde du 1er juin 2009 dit également « Les hindous adorent une multitude de divinités, tandis que les bouddhistes ne conçoivent pas Dieu comme une personne. » Tout comme l'islam, les églises qui se réclament du christianisme enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, la grande majorité de ces églises le présentent comme une trinité, même d'une église à l'autre, les doctrines varient sensiblement, etc. Par ailleurs, les protestants, entre eux, ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la question de l'homosexualité, ils parlent également des juifs, enfin bon. En toute logique, des religions dont les doctrines sont aussi contradictoires peuvent-elles mener au vrai Dieu? Difficilement. Elles ne peuvent que plonger dans la confusion de ceux qui cherchent à savoir qui est Dieu et ce qui attend les croyants. Qui sont les faux dieux? C'est les dieux de toutes les autres confessions religieuses. On est d'accord? Bon. Je ne sais pas si vous voyez le dormir. Mais leur verset dit que il faut s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles et du sang. Ils s'abstiennent du sang, partiellement, mais surtout qu'ils n'allaient pas plus loin. Mais l'abattage rituel, c'est quoi? Est-ce que c'est pas, selon eux, quelque chose qui est sacrifié à un faux dieu? Je vais prendre le halal, ce qu'on appelle la dabeya, la méthode d'abattage rituel, dans une encyclopédie en ligne que vous connaissez. Il nous est dit que c'est la méthode prescrite par la loi islamique concernant l'abattage de tous les animaux, à l'exception des animaux marins. Il doit être réalisé par un musulman en invoquant le nom d'Allah, en disant « Bismillah, Allah ou Akbar ». Cette méthode consiste à utiliser un couteau, enfin, je passe les détails. On est d'accord. Et l'animal est traditionnellement orienté vers la Kibla, c'est-à-dire la Mecque, bien que ces dernières conditions ne soient pas acceptées par certains. Dans cette logique, la viande cachère est annulable, puisque chez les Juifs, l'animal est abattu dans les mêmes conditions. S'abstenir des choses sacrifiées aux idoles et du sang. 25 ans, je te dis bonjour. Je peux vous garantir que Domino's Pizza, j'en ai mangé. Que Quick, j'y suis allé. Que chez Flunch aussi. Que KFC aussi. Et que les Cabanes, j'ai toujours adoré ça. Mais on n'est pas sur des choses sacrifiées aux idoles ? Alors je recommence, mais bon sang. Quand même. Ça s'est venu il y a 15 jours. J'ai réalisé cet aspect-là. Parce que si vous envoyez un témoin de Jéhovah, c'est quoi des choses sacrifiées aux idoles ? Ça n'existe plus. Pourtant, c'est bien le principe, c'est bien l'idée. On est d'accord ? Merci. Alors, après ceci, on a dit, il n'accepte pas de sang complet, il n'accepte pas de plasma, pas de globules, mais ils disent oui à 70% des composants, pris individuellement. Acte 4, chapitre 15, verset 28 et 29, ils décident de n'appliquer du passage que ce qui met leur vie en danger. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des témoins de Jéhovah qui en meurent ? Merci, j'ai fini. Oui. Ce matin, on a la personne qui est l'ami Guillaume qui l'a indiqué. Il y a un décès très récent en France d'une femme. Il n'y en a pas qu'un. En 1985, il y a eu un gros scandale au Japon parce qu'à Kawasaki, l'AFP était présente pour filmer un enfant qui disait « Je veux vivre, je ne veux pas mourir, je veux vivre, je ne veux pas mourir ». Il avait 10 ans. Ses parents ont refusé qu'il soit soigné. Il en est mort. Le 22 mai 1994, un réveillez-vous, leur deuxième journal officiel, titrait « Des jeunes qui accordent la priorité à Dieu ». La couverture était composée d'une vingtaine de photos d'enfants dont certains sont morts parce qu'ils ont refusé la transfusion de sang. Je vous donne un extrait de ce périodique. Dans les temps anciens, des milliers de jeunes gens sont morts pour avoir accordé à Dieu la priorité. Aujourd'hui encore, des jeunes montrent la même détermination à ceci près qu'ils le font dans des hôpitaux et dans des salles de tribunal et qu'il est question de transfusion sanguine. En avril 2001, on va parler un petit peu de la France, il y a un jeune homme qui s'appelle Rémi, qui a 21 ans. Rémi est témoin de Jéhovah. Sa maman est témoin de Jéhovah. Sa maman est à son chevet. Son père, qui est témoin de Jéhovah, ne pourra pas accéder à son chevet. Certaines associations à l'époque, dont une des filles, ont fait des actions pour essayer de faire en sorte que le Rémi soit sauvé. Que les anciens, ce sont les responsables locaux du mouvement, les petits gourous locaux, comme je les appelle, ils sont là pour faire en sorte, pour donner la justice, ils sont là pour vérifier que tout le monde fait bien ce qu'on leur dit. Les anciens refusaient que le père accède à son fils. Rémi a été emmené d'un hôpital à un autre, en France. Arrivé dans ce second hôpital, le médecin voit l'enfant et dit « Non, je ne peux rien faire. Il faut le transfuser. » Il est emmené en Allemagne, où évidemment il meurt. Il semblerait que le dernier acte de Rémi ait été de porter plainte contre son père, parce que celui-ci aurait fait du harcèlement, quand même. Personnellement, en 2001, je sortais des témoins de Jéhovah. J'allais voir mon père, qui a été ancien, et je lui ai dit, mais, enfin, t'en penses quoi ? Sa réponse a été, j'aimerais avoir autant de courage que lui. On appelle ça des amicales. On est d'accord ? Merci. Plus récemment, en 2015, en avril, il y a eu un scandale mondial avec une Australienne de 28 ans, enceinte de 7 mois. Elle a une leucémie, la mère. Elle a absolument besoin d'une transfusion de sang. Elle la refuse. Elle et ses fils sont morts. Évidemment. Alors, malheureusement, ce ne sont pas les seuls cas. On va s'arrêter là. D'abord parce qu'on n'aurait pas le temps. Puis ensuite, il y a quand même des choses plus édifiantes. Je vais vous donner quelques études scientifiques. En 1999, selon un médecin français, il y avait à l'époque 15 témoins de Jéhovah qui décédaient chaque année en France pour refus de transfusion sanguine. À l'époque, ils étaient environ 120 000, aujourd'hui, ils sont un peu plus de 130 000. Donc, au moins un tous les mois qui décède en France. En 2000, une étude clinique réalisée démontre que par le refus de transfusion sanguine, le taux de mortalité chez les femmes témoins de Jéhovah qui accouchaient 44 fois plus élevé que chez les autres populations. En 2001, lors de leur congrès annuel, les gynécologues américains ont constaté une surmortalité néonatale de 20% chez les enfants issus de familles témoins de Jéhovah, faute de soins adaptés. Et en 2003, une étude de Jerry Bellman et de David Green indique qu'il meurt chaque année entre 450 et 1150 témoins de Jéhovah dans le monde pour refus de transfusion sanguine. En 2003, il y avait 6 millions de témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, ils sont 8 millions. Si on fait un ratio, aujourd'hui, il y aurait un témoin de Jéhovah qui meurt, selon l'estimation la plus basse et la plus haute, entre toutes les 6 et toutes les 15 heures à travers le monde. Ce qui m'amène aux associations. En 1979, ils ont créé, partout à travers le monde, ce que l'on appelle les comités de liaison hospitaliers, les CLH. Ce sont des responsables locaux, les anciens, qui veillent tout simplement à défendre le refus de témoins de Jéhovah dans les hôpitaux, dans les cliniques, et puis auprès des bonnes personnes, les avocats, les juges, etc. Mon père a été membre des CLH. Et pour la petite histoire, à l'âge de 10 ans, j'ai été opéré du pied. Je n'avais aucune chance, entre guillemets, de recevoir une transfusion de sang. J'ai été emmené à un hôpital où trois hommes sont arrivés en grand costume cravate à mon lit d'hôpital avec mon père. Et mon père m'a fait signer un document disant que j'étais prêt à mourir plutôt d'accepter une transfusion de sang. C'est ça les CLH. En 2000, en France, le Bureau d'information des témoins de Jéhovah avait organisé une campagne de communication sur le thème « Médecine et chirurgie sans transfusion ». 20 millions de brochures ont été distribuées, 21 conférences pseudo-scientifiques ont été faites. Elles ont été faites auprès, non pas du grand public, mais surtout des médecins, en leur apportant des éléments comme s'ils étaient vrais. Pour continuer dans ce sens, le comité de liaison hospitalier en 2005 ont fait la diffusion d'un DVD nommé « Stratégie alternative à la transfusion, simple, sûre, efficace ». On l'a vu, hein. Un mort toutes les 6 heures, c'est efficace. L'Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de santé ont été saisies. Elles ont dénoncé, je cite, des approximations et surtout des oublis tout à fait nuisibles à la sécurité transfusionnelle, ainsi que l'absence de preuves sur les principes évoqués dans le DVD. De son côté, l'Ordre des médecins a parlé de méthodes pseudo-scientifiques car uniquement orientées vers leur finalité, sans validation ni développement de raisonnement critique. Et il y a régulièrement des associations, des entreprises qui sont créées pour toucher les personnels des hôpitaux, pour toucher les avocats, les juges, pour faire pression. En 2007, il y a eu, pour le grand public, la création de l'association Mission Solidarité. Elle a pour objectif d'aider et soutenir moralement, matériellement, les personnes fragilisées par les aléas et les épreuves de la vie, notamment la maladie. Apporter son concours à toute initiative et à toute action caritative de nature à favoriser l'assistance et l'information dans le respect de la dignité humaine. On parlait de sang, a priori, sauf que bien sûr, c'est un organe français de diffusion des théories sur les soins sans transfusion sanguine. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la partie transfusion de sang. Passons maintenant à la vaccination et à la greffe. Bref historique, en 1929, un journal, réveillez-vous, dit que, alors tout à l'heure, on a parlé des théories fumeuses, vous savez, la conspiration, bon. 1929, ils étaient en avance sur Internet. Les personnes feraient mieux d'avoir la variole que de se faire vacciner parce que cette dernière répand les germes de la syphilis, du cancer, de la lèpre et de beaucoup d'autres maladies répugnantes. Par conséquent, la pratique de la vaccination est un crime, un acte de violence et une illusion. Fin de citation. 1931. La vaccination est une violation directe de l'alliance éternelle que Dieu contracta avec Noé après le déluge. Vous voulez le verset tout de suite ? Genèse, chapitre 9, verset 15. C'est juste ce verset-là. Hein. J'invente rien. Hein. Sinon, je serais peut-être en justice. Seulement, la chair avec son âme, vous ne devez pas la manger. Point final. Violation directe de l'alliance éternelle que Dieu contracta avec Noé à plein début. Donc, depuis 1929 jusqu'en 1953, interdiction de la vaccination, 1953, enfin autorisation de la vaccination, avec le journal qui dit « Il ne semble pas qu'elle constitue une transgression de l'alliance établie avec Noé. » Le tirage a été long. Il y a des nouvelles en cours. Ensuite, la greffe et la transplantation. Alors, au début, super. 1949, le journal Réveillez-vous dit « C'est un choix personnel. » 1961, « Il semble qu'aucun principe ou loi scripturale ne soit impliqué. C'est de ce fait quelque chose que chaque individu doit décider pour lui-même. » 1968, revirement de situation. Je cite le Réveillez-vous de septembre 68. Il est des personnes, les témoins chrétiens de Jéhovah notamment, qui considèrent toutes les transplantations d'organes entre humains comme du cannibalisme. Je ne vais pas vous dire. En effet, utiliser la chair humaine pour soutenir sa propre vie n'est-ce pas de l'anthropophagie ? Anthropophagie. Fermez les guillemets. En juillet 69, Milton Henschel, futur président de la Watchtower, donc le siège mondial des témoins de Jéhovah, déclare dans une interview, j'ouvre le guillemets, la transplantation d'organes est vraiment du cannibalisme. Dans les greffes, vous prenez quelque chose d'une autre vie pour soutenir votre propre vie, nous sommes convaincus que de la résurrection, nous ne craignons pas la mort. Bravo, on peut mourir. Mars 73, ces hommes assimilent donc les greffes d'organes au cannibalisme conformément au point de vue biblique que les témoins de Jéhovah ont toujours soutenu. Juin 1980, en ce qui concerne la transplantation de tissus ou d'os d'un corps humain dans un autre, il appartient à chaque témoin de Jéhovah de prendre une décision en accord avec sa conscience. Enfin, depuis 1980, après qu'il y ait eu des morts, depuis 1980, autorisation de la transplantation de tissus ou d'os dans un corps humain. Je vais vous reparler vite fait de la transfusion de sang. Bon. On a vu auparavant que les témoins de Jéhovah refusent les globules rouges, les globules blancs, tout ça. On retourne sur les globules blancs. 2 à 3% des globules blancs se trouvent dans nos veines. La quasi-totalité des globules blancs sont dissimulés dans les tissus du corps humain. Bon sang, je reprenance, non? Le témoin de Jéhovah, lorsqu'il reçoit une greffe, il reçoit beaucoup plus de globules blancs que par la transfusion. Et bien alors. Alors, que dit la Bible? C'est intéressant aussi. Le verset qui leur a servi pendant autant de temps de laisser des gens mourir dit: moi, Jéhovah, je scrute le cœur, j'examine les reins, oui, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses manières d'agir. Bon. C'est vrai que si on se fait transplanter le rein de quelqu'un d'autre, quand Dieu regarde nos reins, et c'est celui qui est un autre vivant, quoi. Enfin. Sexualité. Ah, j'ai pas d'image. Oh. Ça me détend. On va commencer en dehors du mariage. On va continuer. Mais on va parler en dehors du mariage. Strictement interdite. Depuis toujours. On va pas faire d'historique. Pas le droit. Ni masturbation, ni film érotique, ni film pornographique, ni image, rien. Conséquence. Les témoins de Jéhovah se marient extrêmement jeunes. Des types de 18-10 ans, au mariage. On se retrouve donc avec des familles composées extrêmement tôt, qui ne peuvent pas divorcer. Divorcer interdit, sauf si on trompe le conjoint. Donc au final, on se retrouve avec des couples qui restent avec beaucoup de désamour pendant très longtemps, ou alors bah, qui divorcent, mais le jour du divorce, eh bien on est exclu. Et donc on perd tout le monde de sa famille, etc. Je reviens pas là-dessus. Le mariage est par ailleurs très fortement conseillé dans le Seigneur seulement, c'est-à-dire uniquement entre témoins de Jéhovah. Personne dans votre congrégation qui vous intéresse, bah, tant pis pour vous. La masturbation. Merci. Pas le droit. Les anciens de chaque congrégation ont un livre strictement confidentiel que personne ne doit pouvoir lire, etc. Donc je vous en donne un morceau. Après. Le livre Les jeunes s'interrogent, qui est là destiné à tout le monde, en 2011, dit « La masturbation insuffle peu à peu un esprit totalement égocentrique. » Mieux, il y a un des ouvrages, je n'ai pas retrouvé le nom, malheureusement, un des ouvrages, je me souviens, anecdote très vite, seule fois où mon père m'a parlé de sexualité, j'avais 9 ans, il me dit « Alexandre, on a parlé. » Est-ce que tu te touches parfois le sexe? Parce que ça, je ne l'ai pas dit. Et donc, il m'a sorti un livre dans lequel il est expliqué que la masturbation, vous ne savez pas ce que c'était, la masturbation amène à l'homosexualité. C'était le titre du chapitre. Point final hein, pour l'éducation. Et puis, quand je disais que tout ça c'est interdit, on est toujours dans avant le mariage, sauf que parfois, il est indiqué qu'il ne faut pas se marier. 1941, j'ai pris le plus vieux que j'ai trouvé. 1941, le livre qui s'appelle Enfant dit, entre guillemets, pourquoi ne reverrions-nous pas notre mariage jusqu'au jour où une paix durable sera installée sur la terre ? Restons libres et disposés à servir le Seigneur. Quand la théocratie aura été pleinement établie, ce ne sera plus une charge que d'avoir une famille. 1941. Eh bien, mais des personnes ont refusé de se marier parce qu'elles attendaient la fin du monde. En 1941. Et ce que je viens de lire, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement et qu'aujourd'hui encore, on entend dans certains discours chez les témoins de Jéhovah, dans les grandes assemblées, il est expliqué que peut-être qu'il faudrait remettre plus tard le mariage ou même parfois le fait d'avoir des enfants. Parlons donc du mariage. On a le droit à tout. Non, ce serait trop beau. En 1969, cherchez pas pour l'année. Première fois, 1969, le journal La Tour de Garde évoque pour la première fois les pratiques sexuelles interdites chez les témoins de Jéhovah. Il y apparaît que seule la pénétration vaginale est acceptée. Tout le reste est interdit. Je ne sais pas les détails. L'enseignement nouveau est basé sur la Bible. Il est cité Romains chapitre 1, verset 24-27, qui nous parle de choses qui sont interdites, hein, orales, anales, et qui est adressé aux homosexuels. Rien à voir avec le couple tel qu'il est conçu pour les témoins de Jéhovah. Rien à voir. Mais à partir de 1969, les anciens, les responsables des congrégations sont invités à poser la question à chacun pour s'assurer que leur sexualité est condamnable. Et on se retrouve à partir de ce moment-là avec des couples qui se séparent, avec des personnes qui étaient mariées, qui sont devenues témoins de Jéhovah après avoir été mariées, qui étaient mariées avec des noms chrétiens, comme ils le disent, et donc avec un nombre important de divorces. Sauf qu'en 1974, 5 ans plus tard, un périodique de la Tour de Garde, toujours, dit « Il ne revient pas aux anciens de la congrégation d'essayer de régenter les pratiques sexuelles entre conjoints ni de prendre des mesures d'exclusion pour ce seul motif. » Pendant 5 ans, ils ont détruit un grand nombre de familles et paf, on y revient. C'est bien. Sauf que 9 ans plus tard, la tour de garde, à nouveau, évoque la copulation, enfin les copulations comme interdites. Il nous parle de relations conjugales contre nature, passibles d'exclusion, donc on recommence. Et aujourd'hui, leur sexualité est réglementée de la même façon. L'homosexualité, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorre, c'est à peu près la seule que l'on indique au témoin de Jéhovah. Les homosexuels, ils ont tous été massacrés par Dieu. Le livre des Anciens, quand il parle de l'homosexualité, n'hésite pas à mettre à l'intérieur, dans le même paragraphe, la bestialité, la zoophilie. Pourquoi pas? Je n'aurai pas le temps de citer le passage, mais voilà, je pourrais le mettre à disposition. De toute façon, je donnerai l'intégralité du texte, bien entendu. Les témoins de Jéhovah n'hésitent pas à utiliser un passage de Lévitique, chapitre 20, verset 13, pour affirmer leur position, qui dit que lorsqu'un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, tous deux ont fait une chose détestable, ils doivent absolument être mis à mort, leur sang est sur eux. Et dans tous leurs autres ouvrages, il a indiqué la même chose, tout en admettant que pour eux, le Lévitique, les lois de Lévitique ont été annulées, abandonnées, puisque Jésus est venu sur terre et que de ce fait, il a changé la loi. Puisque vous vous souvenez, acte 15, verset 28 à 29, vous abstenir juste de ces choses. Et puis en 2016, cette année, je crois que c'est en juin, mais les témoins de Jéhovah ont fait beaucoup couler d'encre, surtout au Canada, parce qu'ils ont sorti une vidéo, c'est un film d'animation pour les enfants, où on voit une petite fille toute fière d'apporter un dessin à sa maman. Elle vient d'école. Sur ce dessin, on voit un peu bas, une maman, une petite fille, elle, et son petit frère. Bon, la famille idéale pour eux. D'accord ? Et la petite dit, que sa copine Chloé, elle a fait un dessin avec deux mamans et une fille. Qu'elle est à la porte de la mère. Après avoir expliqué que, je cite, « Chacun se fait une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal », la mère ajoute que le plus important, c'est ce que Jéhovah pense. De fait, le bonheur n'existe que dans le mariage comme décrit dans la Bible, à savoir un homme et une femme. Ceux-là vivront éternellement dans le paradis, ce qui signifie que tous les autres vont être tués. Et la petite fille est invitée à retourner voir les mamans aux homosexuels, et est invitée à retourner voir la petite copine de classe, pour lui parler du paradis, des animaux et de la résurrection. Surtout du fait que ces deux mamans vont mourir. Ce document, visible évidemment en ligne sur le site des témoins de Jéhovah, est à destination des enfants. Dans le même registre, pour clore ce thème, les témoins de Jéhovah mettent à disposition sur leur site internet aujourd'hui des petits dessins à colorier. Et donc, dans ce petit dessin, il y en a un qui s'appelle « Deviens l'ami de Jéhovah ». Le dessin propose à l'enfant de visionner d'abord la vidéo et puis ensuite de colorier les couples comme Jéhovah les Israël. C'est Noé et sa femme, Joseph et Marie à qui il a écouté. Avec cette question, ce que pense Jéhovah du mariage a-t-il changé? A-t-il changé? Ensuite, la pédophilie. Le discours officiel, je vais être très clair, est très bon. Les témoins de Jéhovah n'ont jamais soutenu la pédophilie. Officiellement. La Watch Tower, le siège, a toujours condamné dans ses publications la pédophilie. Octobre 93, un des journaux dit qu'il y a de nombreuses idées fausses. Par exemple, les pédophiles sont généralement des inconnus, des traqués, des enfants fantasmes, mentales, pour leur sexuelle, sexuelle, etc. Très bel article. En 2002, il diffuse une vidéo qui s'appelle « Protéger vos enfants » qui aborde également le problème des prédateurs sexuels. En 2007, Réveillez-vous rappelle que la Bible désapprouve ouvertement l'inceste. C'est classé dans les viols passibles d'emprisonnement. Plus récemment, un des livres qui est sorti il y a peu, qui s'appelle « Approchez-vous de Jéhovah », dit que dans l'Antiquité, toute forme d'inceste encourait une peine de mort. Jean-Marie Bocquer, président de l'Association des témoins de Jéhovah de France, a réalisé un texte destiné au grand public en 2008. Il dit, dans un monde où de nombreux enfants sont victimes de prédateurs sexuels, les médias se font parfois l'écho d'accusations d'atteintes sexuelles sur des mineurs qu'auraient commises ou passées sous silence certains témoins de Jéhovah. Des accusations graves sont ainsi lancées publiquement. Elles aboutissent quelque peu à jeter le discrédit sur toute une communauté de croyants. Sensible à la détresse des victimes, l'Association culturelle des témoins de Jéhovah de France entend rappeler la façon dont elle considère les agressions sexuelles sur mineurs et les actions de prévention qu'elle mène dans ce combat, dans ce domaine depuis des décennies. Très bien. Le président donc des témoins de Jéhovah en France continue en disant que l'idée selon laquelle les témoins de Jéhovah dissimuleraient sciemment aux autorités des actes d'agression sexuelle commis sur les enfants est absurde et inacceptable. Une telle dissimulation irait à l'encontre de la morale chrétienne. En interne, entre autres, on a un courrier de la Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah à toutes les congrégations belges en 1995 qui dit « Quand un membre de la congrégation est accusé d'avoir agressé un enfant, les anciens doivent immédiatement entrer en relation avec le service juridique de la société. En Belgique, les autorités respectent le secret d'une confession reçue par un ministre du culte. Un ancien qui a reçu une telle confession ne se trouve pas dans l'obligation, en vertu du secret moral de la confession, de révéler les faits aux autorités. » Je vous donne également un courrier datant de 1998 qui a été envoyé par la filiale australienne des témoins de Jéhovah à destination du siège international de Brooklyn à l'époque. On y dit. Ce sont bien les témoins de Jéhovah qui écrivent au siège. Jusqu'à présent, les frères s'attendent généralement à ce que les anciens gardent toutes les questions confidentielles. En Australie, il est arrivé que certains anciens aient été préparés à accepter une peine pour outrage au tribunal plutôt que de divulguer des informations confidentielles. Cependant, nous nous demandons maintenant si les anciens doivent se conformer à la loi quant à l'obligation de signalement ou s'il y a une exemption possible. Fin de citation. Bien sûr, ce courrier n'aurait pas dû être lu aujourd'hui, il n'existe pas officiellement. Clairement donc, en 1998, les anciens australiens s'inquiétaient des consignes données par le siège américain. Et ce siège américain a toujours le même type de consignes. La dénonciation n'est donc pas la règle, la dénonciation auprès des autorités compétentes. Alors, quel est le mode de défense des témoins de Jéhovah? D'abord, on l'a dit, c'est faux. Ça n'existe pas. Les témoins de Jéhovah ne sont pas informés du fait qu'il y a des procédures, des procès en cours un peu partout. Ils ne savent pas qu'en Australie, il y a plus de 1000 pédophiles témoins de Jéhovah qui ont été jugés par la cour, par une cour australienne royale. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne croient que ce que leur dit la société. Et la défense, si vous parlez avec un témoin de Jéhovah en lui disant « Mais voilà ce qui se passe. » « Ah oui, mais c'est pire ailleurs. » C'est pire ailleurs. Ah oui, les catholiques. Le meilleur allié des témoins de Jéhovah depuis toujours, ça a été l'Église catholique. Affirmant que le silence doit être rompu dans les cas de pédophilie, le périodique Réveillez-vous du 8 octobre 1993, là, ils disent « Il faut dénoncer les actes de pédophilie auprès des autorités. » Attention, hein. Oui, en 93, ils le font pour l'Église catholique. Je cite. On en veut pour exemple ce constat établi récemment par la Conférence canadienne des évêques catholiques. C'est une conspiration générale du silence qui a permis aux sévices sexuels flagrants perpétrés sur des enfants de continuer pendant des dizaines d'années au sein du clergé catholique. À propos de l'ampleur du fléau qu'est l'inceste, la revue Time parle également d'une conspiration du silence qui ne fait que perpétuer le drame dans les familles. C'est la seule fois où ils abordent ce thème réellement. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Ben oui, je l'ai dit déjà quelque peu, mais il y a un sérieux problème. l'association Silent Lum, une association américaine qui rassemble des documents, des éléments, qui cherche évidemment à emmener en procès bien les auteurs de ces actes, et puis les anciens qui ont caché les choses, et le siège des témoins de Jéhovah. Et bien cette association a récupéré en 2002 un document qui est conservé au siège de New York, qui comprend alors 23 720 noms de pédophiles, recensés par les témoins de Jéhovah dans leur rang. Et attention, ce sont uniquement les pédophiles qui ont été reconnus comme tels. On va y venir après. Il est intéressant de constater que si on fait un ratio nombre de fidèles par rapport au nombre de pédophiles connus, il y aurait, selon ce chiffre, qui n'ont jamais été contestés par la Watchtower, par le siège, au contraire, ils ont dit que ça existe, le fichier existe. Il y aurait un pédophile, dans ce cas, pour 260 témoins de Jéhovah aux États-Unis. Une congrégation, c'est un peu moins d'une centaine de membres. Une église. Donc, dans une congrégation sur trois, en moyenne, on aurait un pédophile aux États-Unis. Si on applique, là c'est l'association Silent Lum qui parle, si nous appliquions un ratio similaire aux 60 millions de catholiques américains, puisque eux c'est ce qu'ils disent, c'est le cas ailleurs, cela voudrait dire qu'il y aurait 230 769 catholiques violeurs d'offrandes dans le pays. Il semble irréaliste de croire que ce type de rapport pourrait exister dans l'église catholique. Pourtant, avec les témoins de Jéhovah, le rapport pourrait être pire si l'on considère que de nombreux fidèles n'ont pas été signalés, puisqu'il y a la loi du silence. Ce qui nous amène à la règle des deux témoins. Comment sont jugés les cas de pédophilie dans une congrégation de témoins de Jéhovah? Il faut deux témoins au minimum de l'acte. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été violé par un adulte, il faut que deux personnes aient assisté à l'acte. C'est impossible. On est d'accord? Regardez ce que dit. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Le livre des anciens. Il doit y avoir deux ou trois témoins oculaires. Il ne doit pas s'agir de personnes qui répètent simplement ce qu'elles vous ont entendu dire. Aucune décision ne peut être prise s'il n'y a qu'un témoin. La confession, aveu de transgression, écrite ou orale, peut être acceptée comme preuve concluante sans qu'il soit nécessaire d'en apporter d'autres pour la confirmer. Si celui qui a violé un enfant reconnaît qu'il l'a fait, là, il peut être jugé par la congrégation. C'est toujours dans le livre. On accepte de graves présomptions telles qu'une grossesse ou des faits confirmés par au moins par moins de deux témoins, indiquant que l'accusé a passé toute la nuit dans des circonstances anormales dans la même maison qu'une personne de l'autre sexe. Poursuivant sur le thème des deux témoins de la peinture, le livre indique, y a-t-il des preuves suffisantes fournies par deux témoins ou autrement pour établir que l'accusé est bien coupable d'un péché grave? Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de jugement interne du procès du pédophile présumé, sauf s'il y a deux témoins du péché, soit par la confession du péché. C'est impossible, mais d'accord? Mais ils le disent. Réveillez-vous du 8 octobre 1993, affirme, je cite, les pédophiles agissent dans le secret, ils exploitent la confiance des enfants et emploient des tactiques d'adultes avec des innocents, inévitablement donc, certains semblent échapper aux conséquences de leurs crimes répugnants. Ils le reconnaissent eux-mêmes.
Le plus petit peut le dire.
Le plus petit peut le dire, il n'y a pas de témoin. Alors comment est-ce que c'est jugé en interne? 5 minutes, merci. Comment est-ce que c'est jugé en interne? Eh bien c'est très simple. Il y a un tribunal. C'est-à-dire tout à l'heure je disais que les anciens avaient la fonction de juge. D'accord? Donc trois hommes, reçoivent l'enfant et lui posent des questions. Trois hommes d'une cinquantaine d'années reçoivent l'enfant de 4-5 ans et lui posent des questions. Je ne vous cite pas les questions. Mais c'est sur ce qui s'est réellement passé, avec des détails, avec. Voilà. Ça ne peut pas être enregistré. Aucune femme ne peut être ancienne, mais que des hommes. Il ne peut pas y avoir de témoin de cette allocution. L'enquête est en cours. Et si l'enfant dit quelque chose que l'adulte dit, c'est pas vrai, il ne peut rien être fait. S'il n'y a pas de témoin au minimum, rien ne peut être fait. Si la personne reconnaît les faits, elle peut se repentir. Si elle affiche un repentir sincère, dans ce cadre, elle reste un témoin de Jéhovah. Mieux que ça. Aucun membre de la congrégation n'est informé de ce qui s'est passé. Dans le cadre de la prédication, vous savez, quand ils viennent frapper à vos portes, l'adulte pédophile peut être accompagné d'enfants. Pourquoi pas? Quand on parle des deux témoins, c'est pour une affaire. On a des cas de pédophiles aux États-Unis, par exemple, avec un ancien qui a été pédophile pendant de très nombreuses années, qui a touché un enfant, pas de témoin. Un autre enfant, pas de témoin. Un autre enfant, pas de témoin. Et il a fait ça en permanence. Jamais, à aucun moment, il n'a été dit aux autres, attention, il a changé de congrégation. Il a recommencé, il a rechangé, il a recommencé. Évidemment. L'association Silent Tomb parle du paradis des pédophiles. Ce n'est pas pour rien. Je vais écourter. Et puis, alors, donc, réellement, donc, la culture du secret, c'est très simple. Ce n'est pas une estrade. La personne est exclue, les autres n'ont pas à savoir pourquoi elle est exclue, parce qu'elle peut revenir. Vous pouvez être exclu, et puis décider de revenir, de présenter un repentir sincère entre les mêmes personnes, et hop, vous êtes intégré. Vous pouvez recommencer si vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez être exclu, revenir, enfin, pas de souci. Ne pas jeter le propre sur la congrégation, c'est leur expression. Ça signifie tout simplement que, eh bien, il faut éviter les actes en justice entre le témoin de Jéhovah. Vous avez le discours officiel qui est oui. Le livre des anciens dit que vous pouvez, si ça arrive, aller voir. Enfin, les anciens n'ont pas le droit d'interdire à un parent de se rendre auprès des autorités de la police, de la justice. D'accord? Mais à côté de ça, il y a des passages de leur livre qui disent que, attention, si vous allez voir la police pour attaquer un autre membre de la congrégation, des mesures peuvent être prises contre lui. Les adultes peuvent être exclus, pourquoi pas, parce que leur enfant est allé, ils sont allés avec leur enfant porter plainte contre un autre membre de la congrégation. Pourquoi pas? L'anonymat, lorsqu'un ancien décide quand même de contacter les autorités, parce que parfois dans certains pays c'est vraiment une obligation, eh bien parfois le siège les invite à le faire, et de manière anonyme. Ils le font donc depuis une cabine téléphonique. C'est ce que demande la watchtower, le siège. Ils le font d'une cabine téléphonique. Inutile de dire que ça va totalement à l'encontre de la procédure d'instruction, puisque, bonjour, lui c'est un pédophile. Ok. On ne connaît pas les victimes, rien du tout. Vous pensez que la personne va dire oui, oui, je... non, bien sûr que non. Et puis l'appartenance discrète, les témoins de Jéhovah, vous savez, ont l'obligation de dire en permanence qu'ils sont témoins de Jéhovah. Sauf que le jour où ils se retrouvent jugés pour de tels problèmes, personne ne dira jamais qu'il s'agit d'un témoin de Jéhovah. Ce qui fait qu'effectivement, on a des procès qui sont en cours régulièrement, personne ne sait qu'il s'agit d'un témoin de Jéhovah qui est attaqué en justice. Donc, ça n'existe pas. Ils peuvent conserver le même discours et dans les congrégations dire ça n'existe pas, ils ne le savent même pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci.